VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Au Mali, le bilan de l'attaque contre l'armée malienne à Nampala dans la région de Ségou est passé de 12 à 17 morts, plus 35 blessés. Des chiffres qui font grincer les dents au niveau de la population malienne, d'autant plus que les soldats attendent avec impatience de connaître l'identité des victimes. Le point avec notre envoyé, notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Pour la énième fois, les positions des forces de sécurité et de défense du Mali, les FAMA, ont fait l'objet d'une attaque d'assaillants lourdement armés à Nampala, dans la région de Ségou. Cette attaque est doublement revendiquée par une Katiba d'Ansardine et l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité PIL. Suite à cette attaque, les FAMA déplorent 17 morts et 35 blessés. Du matériel militaire a également été emporté ou endommagé par les assaillants. Ce bilan fait monter la tension dans la capitale malienne, surtout au niveau des associations des jeunes et les organisations de la société civile, qui ne comprennent pas comment les soldats maliens se font avoir de cette manière. Chez les parents des victimes, c'est toujours l'impatience, car l'identification des corps est toujours en cours. À chaud, le président Ibeka a organisé un conseil de défense au cours duquel il a donné les orientations. Le gouvernement malien de son côté a rassuré la population que des mesures sécuritaires et militaires ont été prises. À Kidal, deux personnes ont perdu la vie au cours d'une dispute née de la vente d'un véhicule. L'un est membre du HCIA alors que l'autre est du Gatia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation massive pour faire face à un désastre humanitaire dans l'état de Borno, touché par les violences des islamistes armés. Les détails avec Nathalie Borge.
La directrice des opérations, Isabelle De Fourny, a dit avoir découvert l'ampleur du désastre lors d'une mission à Bama, à 70 km de Maïdougouri. La zone est coupée du monde depuis presque 2 ans et fait face à une situation d'urgence rarement rencontrée, a-t-elle souligné. MSF avait déjà alerté en juin dernier sur la situation de cette localité où une seconde équipe a été envoyée mardi pour une mission d'une dizaine de jours. Environ 10 000 personnes déplacées sont regroupées dans l'ancien hôpital. Des milliers souffrent de malnutrition sévère et aiguë, a ajouté Jean-Hervé Bradol, coordonnateur d'urgence. Selon MSF, 500 000 personnes déplacées de Maïdougouri, rassemblées dans des camps de la région, ont besoin d'aide alimentaire, soit 300 tonnes de nourriture par jour. Le 1er juillet, l'UNICEF avait prévenu que 250 000 enfants de moins de 5 ans allaient souffrir de malnutrition sévère dans l'état de Borno cette année, dont 50 000 risquaient de mourir si rien n'est fait.
Afrique du Nord, 3 militaires français sont morts dans un accident d'hélicoptère en Libye, a annoncé aujourd'hui le président français François Hollande, confirmant ainsi pour la première fois la présence de soldats français dans le pays. La Libye connaît une instabilité dangereuse, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes, a affirmé le président Hollande. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement dans ce pays, a-t-il souligné. En Tunisie voisine, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier. Chérubin Dorsil.
La mesure annoncée hier par la présidence entre en vigueur demain 21 juillet. Elle accorde aux autorités le droit de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder l'ordre public et la sécurité nationale. Notamment, elles pourront interdire les grèves, empêcher certains rassemblements, fermer provisoirement des commerces et exercer un certain contrôle sur les médias. L'état d'urgence a été instauré en Tunisie en novembre dernier suite à un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. C'était le 3e attentat de l'année revendiqué par Daesh. Les djihadistes ont récidivé en mars de cette année en attaquant des installations sécuritaires à Ben Gherdan, ville limitrophe de la Libye.
Kenya, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, accuse les forces de sécurité kenyanes de se livrer à des enlèvements et à des exécutions extrajudiciaires dans le nord-est du pays contre des personnes qu'elles soupçonnent de lien avec les djihadistes Shebab somaliens. Et puis à Sao Tome et Principe, les deux perdants de l'élection présidentielle ont demandé conjointement l'annulation du scrutin de dimanche. Cette élection a été officiellement remportée dès le premier tour par le candidat du parti au pouvoir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. La Convention nationale du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio, en est à son troisième jour aujourd'hui. Donald Trump est désormais le candidat du parti au présidentiel de novembre, après son investiture à ce poste mardi par les délégués à la Réunion. Le milliardaire veut maintenant réunifier les républicains avant d'affronter aux élections Hillary Clinton, la candidate présumée du Parti démocrate. Pour le programme des activités à la Convention ce mercredi, rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux à Cleveland, Nicolas Pino.
Tout le monde attend deux discours. L'un, celui du sénateur Ted Cruz, qui a été un adversaire farouche lors du processus des primaires contre Donald Trump. Et c'est important, puisqu'on parle d'unité du Parti républicain. C'est un exemple. On ne sait pas vraiment ce qu'il va dire. On ne sait pas s'il va se rallier à Donald Trump pleinement ou plutôt critiquer Hillary Clinton. Mais en tout cas, cette présence est très importante. Et puis le discours le plus important de la soirée, ce sera celui prononcé par le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Il est le colistier de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il deviendrait vice-président des États-Unis en cas de victoire lors de la présidentielle de novembre prochain. Mike Pence le dit lui-même, je suis un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Alors tout le monde attend ce grand discours. À noter que Donald Trump sera à nouveau présent ce soir ici à Cleveland. Nicolas Pino, Cleveland, VOA Afrique.
Le candidat à la vice-présidente Mike Pence est donc à l'honneur aujourd'hui, l'occasion de parler de son poste la vice-présidence. Quels sont les critères de sélection d'un candidat à la vice-présidence? Que cherche un candidat à la présidence dans son colistier? La réponse avec notre autre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Seloudia.
En général, c'est par souci de dosage ou équilibre idéologique ou régional que l'on choisit son colistier pour mieux unifier le parti, mais Henri, il faut dire que ça aide rarement. Par exemple, en 2004, le libéral John Kerry du Massachusetts avait choisi son rival John Edwards, un sudiste et conservateur, mais cela ne l'a même pas empêché de perdre même l'état natal d'Edwards, la Caroline du Nord.
Parlons maintenant de l'importance de la vice-présidence. Pendant longtemps, il a été dit que les vice-présidents allaient simplement aux obsèques. En fait, ils ont beaucoup plus d'importance que cela depuis Jimmy Carter, par exemple.
Ça a commencé avec Jimmy Carter, qui avait promis à Walter Mondale d'en faire vraiment son partenaire. Et il faut dire qu'aussi, Walter Mondale avait beaucoup plus d'expérience que Jimmy Carter pour ce qui est de Washington. Il était sénateur du Massachusetts, était aussi l'un des alliés d'un des grands personnages du Parti démocrate, l'ancien vice-président Hubert Humphrey. Donc, il avait besoin de Mondale et sincèrement, ils ont eu un partenariat très fructueux.
Concernant Mike Pence, qu'est-ce qu'il apporte à Donald Trump?
Bon, c'était pour rassurer la base conservatrice du Parti. Parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui pensent que Donald Trump est plutôt suspect quand il s'agit des programmes traditionnels du Parti républicain, quand il s'agit des programmes sociaux, quand il s'agit des questions sociales, en somme du budget, de l'économie, des impôts. Que Donald Trump est suspect dans ce domaine. Alors, donc, il leur fallait un conservateur bon teint, et ce conservateur bon teint, il n'y a pas de doute, Mike Pence l'est.
Merci Idrissa. Idrissa Seloudia, un de nos envoyés spéciaux à Cleveland dans l'Ohio. Et la lutte pour le djihadisme pour terminer, au moment où les représentants de la coalition internationale contre le groupe État islamique se rencontrent à Washington, l'agence policière européenne Europol publie aujourd'hui un rapport sur les activités terroristes en Europe. Un rapport inquiétant, Anastasie Toudièche.
Selon Europol, 6 États membres ont fait l'objet de 211 attaques qui ont échoué ou ont réussi et 1077 personnes ont été arrêtées pour terrorisme. Le nombre de victimes a bondi en Europe en 2015 par rapport à 2014. Le rapport anticipe une intensification des activités du groupe État islamique qui perd du terrain en Syrie et en Irak. Si Europol admet ne pas disposer de preuves que des terroristes ont infiltré les réfugiés en Europe, le rapport affirme que les demandeurs d'asile syriens seraient susceptibles de radicalisation. Et Europol de mettre en garde, une nouvelle vague de fanatiques formés d'enfants de combattants pourrait voir le jour. Le groupe État islamique semble favoriser des attaques contre des cibles vulnérables, comme à Nice, en France, la semaine dernière, quand un homme au volant d'un camion a tué 84 personnes. L'agence policière européenne indique enfin que les extrémistes utilisent de mieux en mieux Internet et les médias sociaux.
Merci de vos attentions. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.